Et la suite de cette émission, c'est avec vous, Anne-Rose Jankovic, et vos invités.
Oui, Gilles, trois invités qui vont nous parler du jubilé du monde agricole. Plus de 400 agriculteurs se sont rassemblés les 1er et 2 février dernier à Paray-le-Monial pour vivre le jubilé donc, du monde agricole, un événement organisé par les Journées Paysannes auxquelles ont participé mes trois invités du jour, Michel Joannolou, Alain Botte et Elias Alcaï. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors vous allez nous raconter pourquoi tous les trois vous vous êtes retrouvés dans cette aventure. Vous allez nous dire ça dans quelques instants, mais peut-être qu'on va commencer par essayer de comprendre ce rassemblement du monde agricole à Paray-le-Monial. D'abord, Michel Joannolou, vous qui êtes membre des Journées Paysannes depuis plus de 20 ans, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les Journées Paysannes ?
Oui, les Journées Paysannes, c'est en réaction avec un isolement toujours plus grand qu'ont été fondées les Journées Paysannes dès la fin des années 80 avec le père Emmanuel Williams et Jean-Louis Leroux. Nous sommes une association d'agriculteurs de toute la France et de tout âge et de production, une sensibilité très diverse ainsi que des personnes qui sont concernées par le travail de la terre. Alors il y a trois objectifs, c'est rassembler, soutenir, chercher et former, sauvegarder, réinventer, en s'appuyant sur les trois piliers que sont la fraternité, la réflexion et la prière. C'est une association pour le lien à la terre, ayant pour but de nourrir l'espérance des paysans.
Donc l'objectif c'est à la fois de vous encourager mutuellement, mais aussi de sensibiliser le grand public.
Oui aussi, voilà. Et surtout, on se retrouve isolé dans nos fermes. Et là, c'est un partage qui est vraiment... C'est des temps et des lieux de ressourcement pour tout ce qui considère le lien de l'homme à la terre comme vital.
Vous qui étiez agriculteur, les Journées Paysannes, ça vous a vraiment aidé ?
Ah ben oui, parce que sinon, on vient se ressourcer. Et quand on retourne chez soi, on est boosté, quoi. Parce que sinon, entre le travail et toutes les contraintes et le poids, des fois, on a un découragement. Et là, vraiment, c'est un lieu de ressourcement, quoi.
Oui, parce que les fardeaux ne manquent pas dans le monde agricole.
Non, non, non.
Alors, voilà. J'emploie le mot fardeau parce que c'était précisément le thème de cette rencontre.
Oui.
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids des fardeaux. Dans le monde agricole, il y en a des fardeaux.
Tout à fait. Alors aujourd'hui, autant il y a un siècle, c'était le travail qui était vraiment pénible, dur. Aujourd'hui, avec la mécanisation, tout ça, ça s'est allégé. Et aujourd'hui, le principal fardeau, ce sont tout ce qui est administratif, qui nous pèse beaucoup, parce qu'on est toujours amené, quand on se lève le matin, quand on voit le soleil, laisser les travaux des champs et du paysan. Mais après, derrière, c'est tout ce qui est administratif et tout ce qui va avec, quoi. Entre les contrôles, les ci, les là, et voilà. Et le prix des produits qui ne suit pas par rapport à... le prix de notre production qui ne suit pas par rapport au coût de la vie.
Oui, un problème avec la grande distribution qui impose une politique de prix qui ne correspond pas à votre travail, en fait.
Mais voilà, aujourd'hui, on est soumis à la loi de la grande distribution. Donc, pour le consommateur, c'est bien beau de dire vous avez toujours des prix en baisse, mais il faut savoir que c'est au détriment des producteurs, quoi. Et c'est pour ça que beaucoup de producteurs ont disparu. Et aujourd'hui, c'est plutôt la place à l'industrie agroalimentaire qui, derrière, on est producteur de matières premières, mais voilà. On s'écarte un peu de notre objectif premier, quoi.
Alors, quand le monde agricole se rassemble pour vivre un pèlerinage à Paray-le-Monial, l'idée, c'est quand même de jubiler, de vivre un jubilé, d'être pèlerin d'espérance. Comment on arrive à... Alors, peut-être pas à mettre de côté tous ces fardeaux et ces contraintes, mais comment on arrive à puiser dans une démarche spirituelle l'énergie qu'il faut pour repartir ?
Ah ben, c'est là, justement, qu'on trouve ce ressourcement. Moi, le premier, c'est la première fois que j'y allais, parce que les Journées Paysannes, tous les ans, on fera l'Assemblée Générale dans ce lieu. Et cette année, c'est le recteur du sanctuaire qui a demandé de pouvoir jumeler les Journées Paysannes avec les 350 ans des apparitions de Paray-le-Monial. Et pour nous, ça a été un grand état de grâce.
On vous sent un peu ému, Michel.
Oui.
Alors, je vais donner la parole à Alain et Elias qui sont en face de vous. Alors, d'abord, ma première question à tous les deux, c'est Qu'est-ce que vous faites ici? Alain, vous êtes un ancien aviateur. Elias, vous êtes séminariste, vous êtes d'origine libanaise. Vous êtes séminariste pour le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, hein, en insertion à Bagnères-de-Bigorre. Tous les deux, vous êtes embarqués dans cette aventure. D'abord, peut-être nous dire un petit peu pourquoi vous avez fait le choix de suivre Michel. Alors, Michel, on comprend, il était agriculteur. Mais vous, pourquoi êtes-vous parti vivre ce jubilé du monde agricole? Alain Botte.
Alors Alain Botte, oui. Eh bien, embarqué, ça tombe bien, puisque je suis un ancien marin. Bon, cela dit, je suis né dans une ferme, entre la cuisine et les tables, hein, tout simplement. Dans la grange, là, il y avait une chambre juste à côté. On est tous là dans la famille. C'est une maison très, très simple, très vieille. Et j'ai baigné dans ce milieu toute mon enfance. Du côté de mes parents, père et mère, donc c'était ce milieu-là. Sauf qu'ils étaient les derniers de leur fratrie. Et ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre d'années, ils se retrouvaient un choix crucial. Soit ils devenaient ouvriers agricoles de leur frère aîné, soit ils faisaient un autre métier pour vivre ensemble. C'est ainsi qu'ils se sont éloignés de la ferme pour vivre leur vie. Mais on y retournait tout le temps. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'y passais absolument toutes mes vacances. Et ben, la vie a fait que par la suite, effectivement, je n'avais pas les moyens d'acquérir, si je peux dire, une propriété, une ferme. Donc j'ai suivi des études assez longues et j'ai eu la chance d'intégrer l'école navale, donc de faire une carrière d'officier de marine avec comme spécialité effectivement pilote de chasse sur porte-avions.
Vous auriez aimé être agriculteur?
Ah oui, j'aurais adoré. Franchement,
vous avez un cœur de paysan.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je le suis toujours et je le vis toujours encore. C'est la raison pour laquelle, pour ma retraite, je suis venu me retirer, si je peux dire, d'un village absolument rural parce que je tenais absolument à renouer avec ses racines. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé, pour mon plus grand bonheur, dans le Haut-Marquisal, à Iris. Et par les rencontres religieuses, si je peux dire, j'ai eu la chance de rencontrer Michel. Et c'est comme ça maintenant que, grâce à lui, je suis devenu, entre guillemets, son berger, pour l'aider à s'occuper de ses brebis pendant tout l'été en estive et puis le reste de l'année, pour la tonte ou autre chose.
Oui, parce que alors Michel, pardon, je fais une parenthèse, mais officiellement vous êtes à la retraite, mais en fait vous avez toujours des brebis.
Ah ben, un paysan n'est jamais à la retraite, quoi. Ce n'est plus moi qui gère, mais bon, voilà, il y a toujours... Et puis le grand bonheur d'un paysan, c'est quand on voit que l'œuvre où on a travaillé qui continue.
Eh oui, c'est ça. Alors Elias, qu'est-ce que vous faites dans cette... j'allais dire dans cette galère, mais non, pardon, dans cette aventure?
Alors, tout d'abord, je suis un fils d'agriculteur au Liban.
Au Liban, oui.
Précisément d'un éleveur de chèvres laitières au Liban. Et pour cela, j'ai suivi mes études à la faculté d'agronomie au Liban. Je suis ingénieur agronome spécialisé en production animale. Et en tant que séminariste dans un diocèse rural, pour cela, moi, j'ai choisi le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, une des motivations. Je n'ai pas choisi Paris ou autre métropole.
Vous avez besoin de la terre.
Oui, parce que je suis tellement lié. Et puis, en plan spirituel et théologique, je sais que notre modèle pour les séminaristes, et si Dieu le veut, prochain curé, futur curé, c'est Jésus, le bon pasteur. Et la Bible, elle est pleine, dès la première page de la création jusqu'à la dernière page du ciel nouvel et terre nouvelle du monde agronome. Et comme ça.
Alors c'est vrai que quand on parcourt la Bible, le champ lexical est vraiment celui de la terre, hein, donc un champ lexical que vous employez aussi, vous, dans le monde agricole. Aujourd'hui, quand vous regardez l'état du monde agricole avec les crises que vous avez évoquées, Michel, mais qu'on connaît, hein, alors les aléas climatiques, les charges administratives, la politique de l'économie imposée par la grande distribution, quand vous voyez l'état du monde agricole, qu'est-ce qui était évangélique? Qu'est-ce qui nous parle de l'évangile dans l'état actuel du monde agricole?
Mais ça, c'est... Moi, je le vis parce que, bon, on supporte les contraintes. Quand on lit l'évangile et qu'on travaille, bon, on comprend beaucoup de choses et ça nous aide surtout à porter nos fardeaux, quoi.
Oui.
Parce que sans l'évangile, je vois pas comment un paysan, il peut tenir, quoi. Parce qu'aujourd'hui, le paysan, disons que pour moi, un paysan, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, la tête au ciel et les mains pour travailler. Et aujourd'hui, avec la nouvelle politique agricole qui a été de 92 avec système de subvention et de prix bas pour le consommateur, il ne faut pas oublier. Et on a mis le paysan, je dis, à l'horizontale. On lui a sorti la tête du ciel et les pieds sur terre. Et le paysan, aujourd'hui, il est horizontal, on lui demande de produire et de plus en plus. Et à un moment donné, il va contre mur et il s'effondre parce qu'il ne peut plus y arriver. Quoi.
Autour de vous, vous avez des collègues agriculteurs qui se sont effondrés?
Ah oui, on connaît, tout le monde en connaît. Quoi. Et Alain. Je pense que si on n'a pas l'évangile pour nous tenir debout, c'est impossible de continuer.
Alain?
Oui, c'est ce qui me fait penser, c'est ce que j'ai ressenti à part l'aumônial, Marguerite Marie, le cœur brûlant de Jésus. Qui dit cœur brûlant, dit chaleur, dit vie, qui dit vie, dit espérance. Et pèlerin d'espérance, ça tombait bien cette année. Et la devise des journées paysannes, c'est laquelle? C'est la terre au cœur, le cœur au ciel.
Nous parlons du jubilé du monde agricole qui s'est tenu à Paray-le-Monial les 1er et 2 février dernier. Nous en parlons avec mes trois invités, Michel Joannelou, Alain Botte et Elias Alkaï. Alors, juste avant la pause, Alain Botte, vous parliez de ce lieu, Paray-le-Monial, hein, qui est un sanctuaire en Bourgogne, où le Christ y est apparu, à Sainte-Marguerite-Marie, au XVIIe siècle. Pourquoi ce lieu est important ? Pour le monde agricole. Qu'est-ce que le monde agricole peut venir chercher comme ressource spirituelle dans ce lieu?
Justement, c'est un peu le message que j'ai compris en découvrant un petit peu ce qu'évoquait Sainte Marguerite Marie, cette apparition du cœur brûlant de Jésus. Et pour moi, ça a été un peu un choc, je ne m'y attendais pas. Et effectivement, cette brûlure irradie, si vous voulez, le cœur. Et je me suis senti directement concerné en faisant un jubilé, d'ailleurs, qui nous était proposé. Il y avait quatre étapes.
Une démarche jubilaire.
Une démarche jubilaire, ouais. Qui nous était proposée. Et j'ai trouvé ça parfait. Et là, franchement, ça m'a touché au cœur. C'est vraiment le cas de le dire. Je ne joue pas sur les mots. Car effectivement, je disais tout à l'heure, le cœur, c'est la chaleur, c'est la vie, c'est l'espérance. Et dans le monde agricole où on est seul, entre guillemets, dans ce milieu, hein, enfin, des gens que nous rencontrions à Paray-le-Monial, c'était des gens qui sont relativement isolés, mais qui vivent tous la même chose. Et là, ça m'a vraiment touché, car j'ai bien senti que tous étaient atteints par cette irradiation, si je peux dire, cette chaleur du cœur sacré de Jésus, vers les uns et les autres, qui les faisait tenir dans des conditions, pour certains, qui étaient même très, très, très dures, très pénibles à entendre. On a eu des témoignages absolument extraordinaires.
Par exemple, vous pouvez nous partager avec nous quelques témoignages qui vous ont marqué?
Je ne vais pas monopoliser, peut-être, oui. Alors, moi, j'ai été très touché en particulier par ce couple de la Drôme. D'abord... ils sont partis de rien, c'était pas du tout les agriculteurs. Leur père, le père du moins, était médecin de campagne, et c'est comme ça qu'il a été au contact de la terre. Et ses enfants se sont sentis attirés par cela. La rencontre, la vie de son épouse a été absolument extraordinaire, puisqu'elle était née d'une famille protestante, et protestante, pas plus protestante qu'eux, c'est pas possible. Donc c'était impensable de pouvoir se marier avec un catholique. Et le miracle, entre guillemets, s'est accompli. Et ils vivent, comme on dit, parfaitement heureux, au cœur, dans l'esprit des journées paysannes, dans cette ferme de la Drôme, avec des difficultés très, 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 très importantes, aussi bien au niveau de l'élevage. Ils sont entourés de meutes de loups. Tous les matins, ils se lèvent en se demandant si le soir, il va trouver son troupeau. Et plus toutes les difficultés d'accès, parce que c'est relativement loin, c'est un endroit très isolé. Et tous les matins, ils prient. Tous les matins, ils prient et ils remercient le Seigneur. Et là, franchement, j'avoue, j'étais ému et très sensibilisé sur la portée de cette Église catholique qui aide effectivement des gens dans la solitude. Et là, on s'est rendu compte qu'on était très nombreux. Je dis « on », je m'assimile à ce milieu parce que je me revois encore dans ma petite ferme là-bas. Mais on vit tous la même chose dans chacun d'entre coins. Et là, ce jour-là, on se rend compte qu'on n'est pas seul du tout, du tout. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Il y avait des centaines d'agriculteurs qui étaient là, qui vivent tous la même chose, avec la même foi. Et parmi ces témoignages, moi, c'est ça qui m'a vraiment touché.
Alors, vous évoquez les difficultés, hein, qui sont nombreuses dans le monde agricole, on le
sait. Mais les joies aussi, beaucoup de joies aussi, bien entendu, les joies aussi.
Et la fraternité notamment, parce qu'en fait, la solidarité, d'ailleurs, on le voit, et alors on ne le voit pas qu'au moment des manifestations, mais quand même dans nos campagnes, on voit là une grande solidarité entre paysans.
Justement, c'est exactement ça. Là, on l'a vu, parce que ces paysans se sont rassemblés là, mais ils se rassemblent ailleurs. Et Michel est parfaitement mieux placé comment pour dire où ils se rassemblent, dans d'autres endroits, dans d'autres circonstances, mais toujours pour participer avec plaisir. Donc oui. Il y a de la joie, il y a du plaisir parce qu'il y a de l'espérance, ce que je disais tout à l'heure.
Voilà. Alors, on peut faire un petit clin d'œil au diocèse du Gers qui a lancé en sortie sur des terres d'espérance. C'est une démarche synodale lancée par Monseigneur Lacombe. Ça rejoint parfaitement ce que vous êtes en train d'expliquer, ce que vous avez vécu. Je voudrais vous poser une question, Elias, vous qui êtes d'origine libanaise et qui êtes fils de paysans au Liban. Comment ça se passe l'agriculture au Liban? Est-ce que les difficultés que vous entendez là, que traversent les agriculteurs, les paysans en France, ça vous parle? Est-ce que vous comprenez par rapport à ce que les paysans vivent dans votre pays?
Oui, tout à fait. Alors moi, j'étais étonné même qu'en France, il y a des problèmes de l'agriculture, parce que je pensais qu'un pays européen développé et tout ça. Mais la différence, qu'au Liban, il n'y a pas des aides de la part de l'État.
Ah oui.
Les agriculteurs combattent eux-mêmes. Mmh. Et il y a beaucoup de concurrence. Alors, dans la vallée de Beka, par exemple, les producteurs de pommes de terre, toujours envahis par la pomme de terre d'Égypte, de la Syrie, ils ne sont pas capables de se tenir. Mais ça un peu dépend. Dans ma région, personnellement, dans une région un peu prospère que les autres au centre du Liban, non, les agriculteurs même touchent plus que les agriculteurs français. Mmh. Et beaucoup plus.
Ah
Je
oui.
donne un petit exemple. Chez nous, une brebis coûte 200 $ au Liban, tandis que le SMIC, le salaire minimal, c'est 200 €. Alors, une brebis avec un salaire de base. Et je pense que Michel, il peut nous éclaircir ici, c'est le contraire. Je dois vendre 50 plus pour avoir le SMIC, peut-être, je ne sais pas combien.
Michel?
Eh bien oui, mais j'ai toujours un gars de génération avant moi qui m'avait dit que quand il travaillait, une personne aujourd'hui qui a 75 ans, quand son père vendait un veau, c'était l'équivalent à 2 SMIC. Et aujourd'hui, je pense que il faut 3 veaux pour faire 1 SMIC, quoi. En gros. Alors c'est complètement. Moi, quand je me suis installé, j'ai vendu, je vendais les agneaux. Combien c'était? Je ne me rappelle pas. 6 euros le kilo viande carcasse. C'est une carcasse de 15 kilos. Et 30 ans après, à fin de carrière, je vendais cette même carcasse 1 euro de plus le kilo. Alors on voit la différence du prix, nous, du produit et du coût de la vie, quoi.
Oui,
disons que nous, on a la courbe, elle est restée en bas quand le coût de la vie est monté, quoi. Et aujourd'hui, comme dit Elias, il faudrait que la brebis aujourd'hui chez nous, elle vaut 100 euros. Il faudrait qu'elle vaille au moins 300 euros pour équilibrer. Alors pour moi, il se passera 2 choses. C'est-à-dire, ou on continue à faire mourir le paysan, enfin, ou le producteur, mais en il se passe quelque chose, quoi. Hein. Ou c'est le paysan qui meurt, ou si on remet le prix de la matière première au coût de la vie, il y a la moitié des gens qui ne mangent plus, quoi. Alors à un moment donné, il y aura des choix à faire.
Ah oui, ça c'est. Donc on voit bien.
Et merci la grande distribution.
On voit bien que ces questions du monde agricole, elles ne touchent pas que les agriculteurs, oui, et que les paysans. Hein. Donc là, parmi nos auditeurs, tout le monde peut se situer par rapport à ce que vous dites. Dans cette rencontre des 1er et 2 février, là, à Paray-le-Monial, vous avez rencontré un peu plus de 400 agriculteurs, hein, enfin 400 représentants, oui, du monde agricole. Donc ça veut dire des producteurs, des éleveurs, des personnes qui, comme vous, Elias et Alain, n'êtes pas forcément agriculteurs, mais êtes sensibles à ce travail et à ce que traverse le monde agricole. Est-ce que tous les témoignages vont dans le même sens? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un pan du monde agricole qui souffre plus qu'un autre? Est-ce que tout le monde partage les mêmes difficultés, les mêmes défis? Quel retour vous avez sur ça, Alain?
Une première remarque, après je pourrais redonner la parole à Michel, mais bien évidemment. On a eu un témoignage d'un jeune technicien. Donc lui, il n'était pas question qu'il reprenne la ferme, et avait des idées très modernes.
Ça veut dire quoi, des idées très modernes
par rapport à ce que faisait son père auparavant.
Donc la place de la machine, peut-être même de l'IA,
remettre
de
l'humain, remettre l'humain au centre
de
la ferme, et
voilà.
Un peu moins mécanisé. Il s'est avéré qu'étranglé par les emprunts, il dit « c'est pas possible, j'y arriverai jamais ». Et si vous voulez, c'est par la persévérance, et c'est le point commun que j'ai trouvé. La persévérance, quel que soit le milieu agricole, la persévérance de l'individu, de cette personne qui est seule, entre guillemets, et qui fait toute la force et pour moi qui illumine, qui irradie ce milieu. Et effectivement, il y a des petits producteurs, viticulteurs, céréaliers ou éleveurs, tous ces petits, entre guillemets, c'est pas péjoratif, loin de là, pour éviter, pour parler de grandes fermes, d'immenses propriétés, puisque là, ce sont des fermes familiales.
Oui.
J'insiste sur ce mot
familial.
Et
ils veulent garder.
Et ils y tiennent. Et c'est ça qui fait le point commun. Et la difficulté, elle est celle de toute famille. Il faut gagner sa vie, il faut vivre heureux, etc. Et ce mélange des cultures, quelle que soit la production, fait l'unanimité à Paray-le-Monial. Et je crois que c'est ça qui irradie. Et c'est pour ça que Michel disait, et j'étais avec lui, on en parlait avec Elias en revenant dans la voiture, on était radieux, galvanisés, dopés de rencontres humaines, et non pas que paysannes, mais humaines de ces gens-là.
Elias, vous aussi, vous êtes revenu dopé. D'ailleurs, comment ce jubilé du monde agricole vous a nourri, vous qui êtes en plein discernement pour votre vocation sacerdotale? Vous êtes séminariste, donc je le rappelle, vous êtes en insertion à Bagnères-de-Bigorre. Comment ce jubilé a retenti dans votre cœur?
Alors, tout d'abord, moi, je suis tellement, comment dirais-je, j'admire beaucoup même les visites de notre évêque, Monseigneur Jean-Marc Mika, et sa proximité pour tout le monde. Quand il était à Bagnères, on a visité même une ferme et des autres entreprises. Pour cela, pour moi, je répète, le prêtre, il doit, et obligation d'être proche des gens.
Oui.
Parce que si on dit un pasteur, un berger avec ses brebis et tout ça, de connaître les paroissiens. Pour cela, c'est une priorité pour moi. Et pour cela, quand Michel m'a invité, Alain m'ont invité à participer à ce jubilé, j'étais tellement content. Et là-bas, j'étais même étonné du pourcentage des jeunes. Je pensais de voir seulement des personnes âgées un peu et tout ça.
C'est très intéressant, là, ce que vous dites, oui.
Il y avait beaucoup de jeunes, mais des jeunes même mariés avec des enfants et tout ça. J'ai connu un peu plus un agriculteur de 27 ans. Il est marié et déjà avec des enfants. Et il est dans la ferme. Je regardais.
Ça veut dire que l'espérance, elle a déjà fait son travail.
Oui, oui.
Elle est déjà là.
Oui, oui, c'était vraiment, pour moi, je conclue avec ça, un moment convivial. Mmh. Parce que durant le repas, moi, j'ai fait toujours d'être avec des personnes différentes.
La rencontre.
Oui, oui. C'est magnifique.
Merci Elias. Alors Michel Jeannoulou, je vais vous laisser le mot de la fin. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très important. Un paysan, il a les pieds sur terre, la tête au ciel et les mains pour travailler. Ça, c'est magnifique. On a bien compris. Vous avez dit que vous n'étiez plus patron, mais que vous êtes toujours en activité. Quand on est paysan, c'est pour la vie.
Oui, voilà. Et puis, tant que les mêmes peuvent travailler, je crois qu'il faut toujours aider, quoi.
Qu'est-ce que vous retenez de Paray-le-Monial qui va vraiment vous aider à regarder avec espérance ce monde agricole, à contempler ce monde agricole, malgré les fardeaux que vous avez évoqués?
Eh bien, moi, le premier, j'étais surpris, comme disait Alain, par la radiation du cœur de Jésus. J'avais vu, comme beaucoup, le cœur de Jésus chez nous, nos églises ou les statues, mais j'avais pas vraiment compris le sens. Et là, vraiment, c'est un peu comme, vous savez, on a tous des portables, et pour que ça marche, il faut les recharger. Et là, vraiment, on vient se recharger, quoi. Le cœur de Jésus, on vient se recharger. On repart avec, avec des watts.
Eh bien voilà, Michel Jeannoulou, Alain Botte, Elias Alcaï, vous êtes allés vous recharger vos batteries les 1er et 2 février dernier à Paray-le-Monial. Vous avez participé avec plus de 400 agriculteurs au jubilé du monde agricole. Merci beaucoup d'être venu nous raconter tout cela aujourd'hui sur Radio Présence.
Merci à vous.
Merci.
Et merci aussi à vous, Anne-Rose Jankovic.